Bonsoir à tous, bienvenue sur Trapanel, premier mouvement, septième épisode. Comment on apprend la musique, voilà le sujet qui nous concerne dans cette série d'émissions, comme vous le savez maintenant. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous avez compris que cette question a des enjeux et des implications bien plus larges qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors comment font les autres? Voilà la question qui nous concerne aujourd'hui. Selon leur apprentissage, leur culture, leur personnalité, toutes les musiciennes, tous les musiciens ont un fonctionnement différent et celui des autres, de ceux qu'on écoute, qu'on admire, qu'on connaît parfois, peut nous influencer, nous questionner ou simplement nous surprendre et attiser notre curiosité. Pour toutes ces raisons, on peut aimer décortiquer leur façon de faire et découvrir des ficelles, des petits secrets sur leur méthode, sur leurs forces, mais aussi parfois sur leurs limites, comment ils s'en accommodent et peuvent s'en affranchir. Voilà, donc on va tourner autour de ça aujourd'hui avec des gens qu'on commence à connaître. Barbara Carlotti, Patrick Gauthier, Arthur de Barry, Thomas Valgraff, Johnny Montreuil, Baptiste, Rémi Foucard. Et pour commencer, Laurent Blot et Jérôme Pichon, c'est sur Trapanel et c'est maintenant.
L'émission Trapanel commence.
Ça fait bien 10 ans que je suis sur Django Reinhardt. Donc voilà quoi.
Attends, c'est un gros pavé là quand même.
Ouais, mais bon, là, c'est vraiment de mes guitaristes préférés.
Moi aussi, mais là, le niveau pour moi, il est trop élevé. Hein. C'est trop. C'est un mec qui est d'ailleurs complètement autodidacte. Hein. C'est fou. Moi, c'est un peu du niveau de Hendrix.
Ah, mais moi, je les mets les deux totalement sur le même niveau quoi. C'est ultra poétique, ultra mélodique. En même temps, il a la technique quand même qui permet de...
Oui, c'est un virtuose.
C'est un virtuose, mais c'est tellement mélodique que tu peux chanter ces trucs, quoi. Et par contre, à jouer, tu vois, c'est vraiment un truc, je regarde des partitions, personne n'arrive à relever exactement comment il joue, en fait. Donc, je suis toujours dans l'à peu près... Toi, je peux jouer Nuage, par exemple, après les autres trucs, là. Et encore, tu vois, je peux interpréter Nuages, mais je peux pas jouer.
On a un pote de mon père qui m'avait filé un disque de Django Reinhardt quand j'avais avec le Hot Club de France. Il y a un morceau qui s'appelle Improvisation, quelque chose. Improvisation, je crois que ça s'appelle, mais il n'y a même pas de nom. Et c'est un peu comme l'impro d'Hendrix à Woodstock. C'est un truc de malade, c'est improvisé. Enfin, je sais même pas si c'est vraiment improvisé, mais t'as une espèce de thème, c'est hyper beau, il est juste tout seul à tricoter un truc et t'es là, waouh.
Tu sais comment il a perdu ses doigts?
Patrick Gauthier.
C'est une très belle histoire.
Raconte-la, moi, si tu veux.
Alors, Django, à un moment, il voit sa roulotte en feu. Et il y avait son fils qui était dans le berceau, dans la caravane. Il a foncé. Il a plongé dans les flammes pour sauver son fils. Et il a eu la main cramée. Voilà, c'est une histoire vraie. C'est en sauvant son fils des flammes, des caravanes. C'est une belle histoire.
Alors, il a réappris.
Je l'ai montré.
Il a réappris comme ça. Il était déjà très, très, très talentueux. Il jouait beaucoup du banjo à l'époque, l'orchestre. Les orchestres, il n'avait pas la guitare manouche encore. Hein. Ouais. La guitare classique, elle jouait trop faible. Donc, le banjo, pour pouvoir... soutenir le niveau acoustique avec l'accordéon. Donc, il était déjà virtuose et très talentueux, très précoce. Il devait partir en tournée en Angleterre. Quoi, ça, hein, mais il jouait de malchance toute sa vie quand même. Et cet accident, voilà. C'est sa mère qui a vraiment insisté pour qu'il soit pris en charge, soit soigné, soit. Il a eu de la chance à ce niveau-là. Et son frère qui lui rapporte une guitare et il réapprend à jouer. Il a retransmis ce qu'il savait faire sur deux doigts. Mais je pense qu'il avait déjà une sensibilité particulière avant son accident et tout ça. Qu'il aurait exprimé à 5 doigts ou à 4 doigts ou 3 doigts sur son ongle.
Bien sûr. Ouais.
C'est-à-dire que ce qu'on entend dans Django, ce qu'on reconnaît dans Django, c'est son placement. C'est c'est le silence, c'est sa, sa cavalcade, et comment il court, quoi, puis comment il respire. Et comme il envoie un tempo, c'est c'est que ça, c'est comme il peint, hein, c'est comme on entend parler en fait, la vaisseau. Donc il a pas, je pense pas qu'il ait réappris à parler, il a appris à réutiliser à sa langue parce qu'il s'était fait casser des dents, quoi, mais donc fallait qu'il retrouve son langage courant, mais son, ce qui venait de son âme et de son cœur, c'est... On n'a pas de preuve parce que c'est pas ce qu'il a enregistré avant, mais je pense que la musique, que le point de départ, c'est quand même sérieusement la musique qui va dans la tête.
Oui,
ce qu'il a envie de chanter. Alors après, oui, comme tu dis, ben, sa contrainte lui a fait chanter ça un peu peut-être différemment sans qu'il en ait conscience. Parce qu'il faisait comme il pouvait. Mais il avait, je pense qu'il avait, on a tous, c'est le cas, mais un truc qui tourne dans la tête, quoi, qui a envie, qui a besoin de sortir. Qu'il doit sentir, quelle que soit la manière.
Par exemple, typiquement, Bertrand, il a une identité musicale hyper forte, quoi. Mm-hmm. Il a un vrai son.
Barbara Carlotti.
Quand tu mets n'importe quoi, n'importe quel compo qu'il a fait, tu sais que c'est Bertrand Burger, là, quoi. Ça, il a vraiment sa musicalité à lui, et après, nourri de toute une esthétique... Je pense, voilà, 70s, qui, voilà, puis avec cette espèce de passion qu'il a pour Robert Wyatt et tout, enfin, et du coup, ce genre d'harmonies qui sont assez complexes, mais c'est vrai que, ouais, que lui, il est assez technique, en fait, au final, Bertrand. Pas vocalement, mais en tant que musicien, il est assez technique. Enfin, tu sens qu'il y a un gros background de jazz. D'ailleurs, il présente souvent des émissions. Il fait souvent des playlists sur FIP où c'est vraiment nourri de jazz ou du tout le jazz fusion, enfin pop des années 70, quoi.
Je me suis déjà posé la question. Tiens, ben, Thurston Moore avec ses accordages, est-ce que je me dis, c'est tellement un geek, il doit forcément avoir une connaissance de savoir ce que c'est qu'un mineur 7 quand il accorde sa guitare de telle manière et tout ça, quoi. Et un jour, j'ai une interview, il parle des Sparks, il dit qu'il est fan des Sparks.
Ouais.
Et qu'un jour, Ron Mael le contacte parce qu'il vient jouer à New York,
ouais,
en lui disant « Tiens, bah, ça te dit de venir jouer This Town Ain't Big Enough for the Both of Us ?» Et il dit, donc voilà, il me demande ça, attends, il me demande ça. Et au début, ça m'a fait un peu peur parce que moi, je sais pas vraiment jouer de la guitare.
Ah, oui.
Arthur de Barry.
Mais c'est vrai, Thurston Moore, il sait pas vraiment jouer de la guitare. Il a développé un jeu, une méthode, une façon de jouer. Mais
on comprend ce qu'il a voulu dire, mais la phrase est tellement.
Ah oui, bah c'est génial. Thurston Moore qui fait des disques avec que de la guitare et qui te dit, je sais pas vraiment jouer de la guitare. Mais c'est assez vrai.
Après, il me semblait avoir lu, alors c'est pareil, j'ai lu tellement de trucs quand j'étais jeune.
Thomas Valgraf.
Que c'est, le gars technique du groupe, c'était Lee Ranaldo, et puis aussi ensuite c'était Chele à la batterie, quoi. Qui me semble être quand même les deux vrais geeks de musique, finalement. Enfin, geek dans le sens technique. Et que Thurston Moore et Kim Gordon, ils sont plutôt. Enfin, même d'ailleurs, Kim Gordon, je crois qu'elle n'est pas spécialement musicienne à l'origine, quoi. Et Thurston Moore, il s'amuse avec sa guitare. Donc ouais, je comprends. Il disait, je suis pas vraiment guitariste. Après, c'est marrant parce que quand tu vois l'évolution de leur groupe et de leur façon de jouer, Thurston Moore, quand même, entre les premiers Sonic Youth où il maltraitait ses guitares et puis après ses projets solo et tout ça, machin, tu vois quand même une évolution technique. Hein, dans ce qui est dans ce qu'il fait. Donc maintenant, il sait jouer de la guitare.
Trapanel. Kurt Cobain, dont il y a cette fameuse légende qu'il aurait pris deux cours qu'il n'a pas payé, là, ou je sais pas quoi.
Je savais un truc, c'était que il a arrêté les cours dès le moment où il s'est rendu compte qu'en faisant des barrés, il pouvait décaler les accords sur le manche.
Par exemple, c'est très intelligent de sa part. C'est-à-dire, il a compris qu'en fait, il avait un outil pour faire toutes les notes, donc il n'avait plus besoin...
Il n'y a pas vraiment d'accord mineur et de majeur.
Non,
c'est marrant.
C'est pas très modal, ouais.
On vante à raison la qualité des chansons
Ah oui, oui, les mélodies, les structures, les intervalles, c'est fou, hein.
Et souvent, quand on vante la qualité d'une chanson, on valorise le côté harmonique et tout ça, et il y a un côté quand même, les chansons de Nirvana, où il s'en fout. Que ce soit majeur quand ça doit être mineur.
Oui, il s'en fout un peu.
Même sus 4, rien.
Ouais. Mais je pense pour le coup, c'est une de ses forces, des forces de son écriture, de sa façon de composer. C'est qu'en fait, je pense qu'il avait certainement une oreille qui fonctionnait très très bien, qu'il avait écouté beaucoup de musique.
Ah bah, les mélodies, de toute façon, finalement, respectent l'harmonie.
Oui, ouais. En fait, c'est assez respectueux de l'harmonie, des règles de l'harmonie, ce qu'il fait, d'une part, et d'autre part, c'est... très riche de sa propre personnalité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une façon d'utiliser l'instrument là, qu'il a développé lui-même, exactement comme Thurston Moore à sa manière. Mm-hmm. Mais effectivement, plus dans un, enfin pour Cobain quand même, plus proche en fait d'un rapport country blues, bluegrass, enfin comme on dit redneck américain quoi, quelque chose de plus un peu entre guillemets bas du front, alors que Thurston Moore il a un rapport très nerd, très intello au truc, donc très vite il prend sa guitare et puis il détune pour faire un truc chelou. L'autre il détune pas, il s'en fout, et il fait mi la ré sol si mi, mais il joue que les deux cordes du haut et puis il s'en bat les couilles, et puis à un moment juste il met il utilise le doigt qui est libre pour faire un truc et il, enfin tout le monde qui essaye de jouer Nirvana un jour ou l'autre chez lui avec sa guitare électrique, il réécoute le disque, il apprend la grille, il dit ah c'est bon j'ai la grille. Puis après, il réécoute le disque, il fait « Mais attends, mais c'est pas ça qu'il fait. » Parce que c'est pas ça qu'il fait. Je sais pas, par exemple, Lithium.
Ouais.
En fait, si tu joues les accords pleins, comme ils sont écrits sur la grille, il y a trop de notes. Il y a des choses qui sont pas dans le morceau. Et qui... Enfin, dans la manière dont lui, il le jouait. Et tu peux le jouer comme ça, ça va marcher. Mais c'est pour ça que les reprises de Nirvana, c'est nul. En fait, il y a un mode de jeu qui va avec. Il y a un mec qui disait ça, je sais plus qui, peut-être un ingé son avec qui il a bossé, je sais plus, peut-être Butch Vig ou l'autre là, Albini, qui disait oui, tout le monde dit que Kurt Cobain c'est un mauvais guitariste. Moi, je suis pas d'accord. Kurt Cobain c'est un bon guitariste parce qu'il jouait ce qu'il avait envie de jouer. Bah moi, je suis assez d'accord avec cette définition.
Mais c'est de la technique aussi, hein.
Baptiste.
Parce que il y a encore récemment, là, j'ai tombé sur une vidéo de, ben, je pense que c'est Smell Like Teen Spirit, où en fait, moi, j'ai toujours joué Smell Like Teen Spirit. Tu vois, tu commences par strummer du haut vers le bas, quoi. Le premier, tu commences par donner un coup vers le bas. Et ben lui, mon pote, il fait l'inverse. C'est-à-dire que pour que ça arrache bien les oreilles dès le premier accord, le tin, talin, et ben en fait, le premier, il commence en arrachant les cordes par le haut, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il fait le geste du bas vers le haut pour bien que ça arrache les cordes aiguës. Il fait presque le riff à l'envers, en tout cas, la première attaque.
Au bas haut,
c'est ça? Ouais, au bas haut, exactement. Donc, il y a tout un truc de lier la technique à quel son ça apporte. En effet, le son que tu attaques par le haut ou par le bas, bah, il change aussi, quoi.
Ça me faisait penser à un moment donné, j'étais venu en studio pendant que Bertrand Belin il faisait un de ses disques, il y a quelques années. Bah, c'était au moment de Magnetic, il avait vachement aimé Magnetic et tout, et comme il avait vu que j'avais fait pas mal d'arrangements dessus, il était là genre « Vas-y, on a une chanson sur laquelle on galère, là, t'as des idées et tout. » Et en fait, j'ai senti que lui, sa manière de traiter les arrangements, elle avait rien à voir avec la mienne, quoi. C'est-à-dire que lui, il était plus à retirer des choses aux endroits où... Ou moi, en fait, j'aurais peut-être, je me serais dit, il faut faire une sortie de route et trouver une autre harmonie, et tu vois. Et lui, c'était pas ça, quoi. Et en fait, c'était hyper marrant de... Donc, du coup, je leur suggérais des trucs et tout, un peu comme ça, des idées, tu vois, sans vraiment jouer quelque chose, mais on discutait, quoi. Et je me suis dit, ouais, on n'a pas du tout la même approche, quoi. Vraiment. Et moi, je me disais presque... Enfin, presque j'étais un peu choquée, je me disais, mais ah bon, il fait comme ça, mais alors... Et j'avais jamais envisagé les choses comme lui, donc je me suis dit, en fait, je pense qu'on a tous façonné avec les ordinateurs notamment une façon de faire du découpage, du montage, du collage, etc. Mais en fait, je pense pas que sur la musique, je pense que c'est un super guitariste aussi, il travaille tout le temps d'ailleurs, il est sans arrêt en train de jouer des standards de jazz par exemple, Bertrand.
Ah ouais.
Ça, c'est marrant. Mais Bertrand, en fait, ce qui était marrant quand je l'ai vu bosser, c'est que lui, par exemple, il y a une chanson que j'adore de lui qui s'appelle Glisser, redresser, et il y a une bascule harmonique dans la chanson qui me fait pleurer à chaque fois, quoi. Je suis ultra ému qu'il ait... Enfin, tu vois, genre, tout d'un coup, c'est une sorte de vague émotionnelle incroyable par ce changement harmonique, quoi. Et je suis genre presque jalouse, tu vois, qu'il ait trouvé ça, parce que pour moi c'est genre, je pense que c'est une sorte de graal en fait, d'arriver à tout d'un coup trouver une harmonie. Et en fait, malheureusement, moi quand je compose, bah en fait je pense que j'aurais plus de technicité ou j'aurais plus de savoir harmonique, je pourrais peut-être déclencher ce genre de truc, mais jusqu'à présent, j'ai pas, tu vois, j'ai pas, en tout cas, eu la sensation d'avoir accompli une prouesse de cet ordre harmoniquement.
Extrait de l'autobiographie de Brian Wilson, I Am Brian Wilson, coécrite avec Ben Greenman, traduite par Pernell Gauthier. Nous avons commencé à chanter dans la chambre de l'étage à Hawthorne quand j'étais enfant. Vers 10 ou 11 ans, j'ai eu une période où j'essayais divers instruments. Mon père m'encourageait. J'étudiais le ukulélé et l'accordéon. C'était de petits instruments qu'il était facile de garder dans une maison où trois gamins partageaient la même chambre. J'ai même fait quelques spectacles pour enfants à l'école avant d'en avoir marre. Et surtout, marre de ces instruments. Plus vieux, je me suis orienté vers le piano et j'ai commencé à reprendre les mélodies des chansons que j'entendais à la radio. J'ai repris la mélodie de Tenderly et je l'ai accompagnée en chantant. J'ai appris à écouter et à chanter. Et puis, j'ai appris comment enseigner aux autres à écouter et à chanter. Denise, Carl et moi avions formé un petit trio et j'ai commencé à amener des chansons à ce groupe. Je lui ai amené celles des Cordettes, des High Lows et de Nat King Cole. Je lui ai amené Ivory Tower, qui était un tube chanté par Cathy Carr, ainsi que par Gail Storm, vers mes 14 ans. Come down from your ivory tower, let love come into your heart. Et je lui ai amené plein de chansons des Four Freshmen, qui avaient commencé dans l'Indiana en tant que quartet vocal a cappella, et conçu des façons de plus en plus sophistiquées de jouer avec leur voix. J'ai essayé de comprendre comment ils exploitaient leur voix, de démonter leurs chansons comme si c'était des horloges. Puis de les remonter pour moi, Denise et Carl. Je les écoutais jusqu'à ce que je comprenne bien la mélodie principale et comment répartir les chœurs au-dessus et en dessous. Puis j'ai appris les parties harmoniques à mes frères. Pendant 3 ans, nous avons chanté ces chansons et d'autres comme celle-là. Plus tard, avec les Beach Boys, j'ai fini par apprendre que tout le monde ne comprenait pas les choses en même temps. Parfois, quand j'expliquais une chanson, Mike mettait plus de temps à assimiler ce que je disais. Ça se passait de la même façon quand j'étais enfant. Not enough breath. So take it from the top of the second verse. And then what after that, Brian? What did you just do? Then it goes. That's the end, right? Yeah. Okay, take it from the top. Lorsque j'apprenais à mes frères les parties harmoniques, Carl comprenait tout de suite et très bien. C'était notre meneur pour les chants. C'était plus long avec Denis. Il devait être patient avec lui-même. Il avait d'autres occupations, des amis différents, des sports différents. Vers mes 12 ans, j'ai vraiment bien accroché avec cette musique des groupes vocaux et j'ai continué le piano. Mon oncle Charlie m'a montré comment jouer le boogie-woogie comme sur les disques de Johnny Otis. Quand vous consultez une recette, elle vous donne la liste des ingrédients avant de vous dire comment les cuisiner. Mes ingrédients, c'était de belles chansons interprétées par des artistes comme Rosemary Clooney, les harmonies vocales de groupes comme les Four Freshmen ainsi que le boogie-woogie. Ce sont les sons qui ont commencé à me tourner dans la tête. Okay, this is the harmonies. The vocal harmonies on the choruses of Beat It. I'll do the verses, then I'll do the choruses. 1, 2, 3, 4. Da 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 da
Ouais, alors moi je te disais, voilà, on n'a pas parlé de Michael Jackson, mais Michael Jackson, autodidacte merveilleux, quoi. Enfin, le mec, il n'est pas allé au conservatoire, par contre, il naît dans un bain de musique, et toute sa vie dans un bain de musique, et le mec compose des trucs, enfin, je te l'apprends pas, des trucs qui sont des chefs-d'œuvre, et sans avoir jamais l'interaction avec la partition, ou même avec un instrument, il ne jouait pas d'instrument. Donc tout ce qu'il pensait, toutes les idées, il les enregistrait avec sa bouche, et ensuite on travaille avec les musiciens. Et puis ensuite tu rebondes, toi tu m'as rebondi, je t'ai demandé est-ce que Prince était autodidacte ou pas ?
Il l'est.
Et voilà, Prince est autodidacte le mec. Comme quoi il n'y a pas besoin du cons pour écrire des trucs de dingue. Et effectivement une qui n'est pas autodidacte, qui a été au conservatoire sérieux et qui aurait dû être concertiste, c'est Nina Simone. To try to tell them they would not understand if you tried to tell them. Je crois qu'il y a une prof de piano blanche qui dit cette petite je la prends dans mon cours parce que il faut qu'elle apprenne le piano, c'est super. Et Nina Simone, elle le dit que son rêve c'était de jouer du classique dans un orchestre classique, de jouer je sais pas moi tout le répertoire quoi, et elle en avait les moyens. Techniquement, au niveau de sa sensibilité, de son toucher et tout ça, et qu'effectivement elle n'a pas eu de carrière de concertiste classique parce qu'elle était noire.
Tu dis Trapanel ?
Trapanel.
Rita, chanson d'amour.
Je pense à un truc aussi, c'est que moi quand je commençais la guitare, quand j'avais 9-10 ans, et bon, à l'époque j'écoutais Renaud.
Ah, parce que voilà, il y a...
Même quand j'apprenais les accords, j'ai toujours su que Renaud, il en connaissait assez peu.
Oui.
Et qu'il se démerdait avec, quoi.
Oui. Et que rapidement aussi, il a confié la musique de cet album à d'autres gens.
Oui.
Vous pouvez préciser, j'ai fait le tour. Moi, j'ai fait le tour des 4 accords que je connais. J'ai pas raconté quelque chose de plus. Donc, il confiait ça à des connaissances, à des amis, des musiciens. Ce que j'ai fait. Sans le comparer, moi je me compare pas à rien, mais c'est vrai que c'est des exemples de mecs qui savaient quoi faire avec ce qu'ils avaient et qui le faisaient magnifiquement bien et avec la simplicité quoi. Donc, c'est des exemples quoi, de mecs qui avec des choses simples font des trucs de malade. Et c'est possible. Et qu'à un moment aussi, tu tournes en rond. Donc soit tu développes un apprentissage autre, soit tu travailles avec d'autres gens aussi, soit avec sur d'autres mélodies qui ne sont pas les tiennes et c'est plus intéressant. Et ce travail-là, il est super intéressant aussi, la collaboration. Mot, verbe avec une mélodie qui existe déjà, comment tu vas écrire dessus, tout.
C'est frustrant de voir des gens, on a envie de snober des gens qui n'ont pas...
Rémi Foucard.
Qui n'ont pas appris, et du coup je trouve que ça mène à une vision, je trouve, hein, des arts, en tout cas de la musique, qui est séparée en deux, avec d'un côté la musique savante, de l'autre côté la musique populaire. Et moi, je voudrais proposer une autre lecture. Ce serait d'un côté la musique belle et de l'autre côté la musique pas belle. Et franchement, il y a des trucs super savants et hyper durs. Je sais pas, je suis violoniste Paganini. C'est une horreur à jouer. C'est hyper difficile. Il peut y avoir quelque chose de beau de voir quelqu'un maîtriser des gestes extrêmement complexes. Hein. C'est ce qu'on aime, par exemple, je sais pas, quand on va voir du cirque. Mais vraiment, enfin, j'adore le cirque. Hein. Mais moi, Paganini, ça m'ennuie au plus haut point, que je trouve ça musicalement hyper cucu. Bravo, c'est hyper dur, mais je m'emmerde. Si, par exemple, je connais pas Chilly Gonzalez, par exemple, je trouve qu'il est très bon producteur, qu'il est très bon pianiste, que j'adore quand il travaille pour d'autres trucs. Par contre, sa musique à lui, sous Chilly Gonzalez et tout... Je l'ai vu en concert et je suis pas resté longtemps, quoi. Je me disais, bah, il est hyper fort. En plus, il joue justement quelque chose presque un peu sportif, un peu... Je me suis ennuyé, quoi.
Tu parles de ce qu'il fait au piano ?
Ouais, ouais, de ses albums et tout, et de ses concerts au piano. Je me dis, bah, bravo, t'es hyper fort, mais moi, je m'ennuie, quoi. Enfin, j'entends que, comme discours, je suis hyper fort. Et je n'entends pas rien d'autre, donc je suis là, bah oui, il est hyper fort, bravo, enfin c'est hyper impressionnant, mais j'ai pas d'émotion à part ça. Pour moi, le contre-exemple total, c'est Joni Mitchell, qui est pour moi une grande musicienne,
Mais elle, son projet au départ, c'était la peinture. Je veux être peintre. Mais en attendant de vendre mes toiles, de me gagner ma vie en tant que peintre, bon bah j'ai pas de quoi m'acheter des tubes de peinture, payer mon loyer ou je sais pas quoi. Donc elle jouait dans les bars, elle faisait des concerts. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à gagner sa vie. Elle a appris la guitare, elle a commencé par le ukulélé, je crois, en autodidacte, ou je sais pas, peut-être quelqu'un lui a montré, mais enfin voilà, elle a vachement travaillé elle-même tout seul. Donc, quand même, elle a beaucoup appris elle-même. Je trouve que elle est excellente guitariste.
Oui.
Que c'est une compositrice extraordinaire. Que ses textes, c'est vraiment de la littérature. C'est assez fou. Donc, je trouve qu'il y a un niveau musical assez extrême. Pourtant, c'est une meuf qui est venue à la musique. Bon, par accident, j'aime pas trop dire par accident, parce que finalement, peut-être elle aimait quand même vraiment ça, mais en tout cas, c'est pas ça qu'elle a travaillé, c'est pas sur ça qu'elle a investi en pratique, etc. Je dis pas que quand elle écrit une chanson, elle le fait pas sérieusement et elle travaille pas pour écrire une belle chanson, bien sûr, il y a une forme de travail. Mais elle a appris en faisant... et c'est quelque chose que n'admettent pas beaucoup de gens qui ont appris avant de faire, qui ont appris d'abord la technique, d'abord la théorie, d'abord le solfège, je sais pas, et comme si on pouvait pas apprendre en faisant, comme si on était obligé d'apprendre sans plaisir. Et ouais, pour moi, voilà, c'est l'exemple typique d'une grande musicienne. Enfin, franchement, voilà, ces textes, pour moi, ça, elle joue dans le niveau de Bob Dylan et Leonard Cohen, quoi. Ah oui, j'ai oublié de dire, elle chante de folie aussi. Elle est quand même meilleure chanteuse et guitariste que Bob Dylan. Peut-être lui, bon, écrit... Bah, Bob Dylan, c'est super, mais... il joue de la guitare simplement et...
Le Michel, il y a quand même de la technique partout.
Oui. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, après, j'imagine, ouais, elle a dû travailler quand même beaucoup. Mais en tout cas, elle a appris au fil de... Ouais, déjà en faisant, quoi.
Pour moi, la grande classe à la guitare, c'est les gens qui arrivent à faire deux notes et ça sonne de ouf.
John Frusciante.
Lui, il est balèze en plus, quoi. Il est aussi balèze, quoi.
Oui.
Mais tu vois, Maka, par exemple, donc, qui est un peu un génie de tout, son solo sur Maybe I'm Amazed, par exemple, qui est très basique et très machin, il est génial, quoi. Il a... Toi, ça va pareil pour ses lignes de basse, quoi. Pour moi, c'est le meilleur bassiste parce que... Pas parce que c'est le meilleur techniquement, quoi. Quoi qu'il est quand même très bon techniquement, mais c'est juste que bah, ça sonne, il fait une note. Toi, Coming Up, donc c'est Mi, je pense, sur Maca 2, c'est Mi, jusqu'au refrain, c'est toujours Mi, 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 mais putain, la façon dont il les met, c'est juste vas-y, quoi. C'est génial, quoi. C'est toujours un petit peu faux, un petit peu. Mais c'est très vivant, quoi.
Trapanel.
Mais si t'es super fort techniquement, que t'as un énorme bagage, capacité à désapprendre pour savoir jouer hyper simple, juste la note qu'il faut. Et ça, j'ai remarqué que beaucoup de musiciens très virtuoses, très forts, etc., ils ont beaucoup de mal à faire ça. Et ils ont pas ce truc-là d'oublier un peu leur bagage académique pour faire quelque chose de vraiment ressorti. À l'inverse, j'ai ce sentiment avec John Frusciante, c'est pour ça que j'adore ce mec. C'est que, ne serait-ce que sur le solo de Californication, ouais, t'en connais tous.
Ah, super.
Ouais, qu'il y a quatre slides. Il y a quatre notes.
C'est
non,
ça,
c'est... Non, c'est pas du slide, non, c'est un petit solo, il y a genre quatre notes. Un peu mal joué, vraiment, c'est lofi. On dirait quelqu'un qui ne sait pas jouer de guitare, et en même temps, les notes qu'il fait, c'est exactement ce qu'il faut, et c'est hyper poignant, quoi. Qu'on aime ou pas ce morceau, tube.
Moi j'adore ce tube, il est génial.
Et ouais, mais moi j'adore précisément pour le. S'il n'y avait pas le solo, je pense que je serais un peu moins enthousiaste. Mais ce solo là, faudrait écouter, mais c'est vraiment incroyable. On dirait quelqu'un qui vient d'apprendre la guitare, enfin qui connaît la guitare depuis 3 mois. Toi. Alors que John Frusciante, c'est par ailleurs un guitariste exceptionnel, mais autodidacte aussi, je crois. Me semble-t-il.
Enfin, tu vois, par exemple, moi, je pense directement à Graham Coxon. Tu vois, lui, c'est son contest, un mec très, très fort à la guitare, tu vois. Il a un album acoustique très influencé par Neil Drake, donc t'as vraiment des parties de dingo, tu vois. Moi, je saurais pas jouer ça, quoi. Mais sur les solos, sur les ces parties de guitare sur les morceaux de Blur, il y a ce truc. Alors je sais pas si c'est dit, je vais désapprendre ou si c'est juste son style. Mais en gros, on a l'impression qu'il fait n'importe quoi, mais en fait pas du tout, quoi. Il y a ce truc là de les virtuoses dans son propre style, quoi. Je sais pas si on peut dire ça. Tout en étant très très fort de toute façon, quoi. C'est-à-dire, il y a un disque, il joue de la guitare sur un album de Ed Hardcore, sur un morceau d'Ed Hardcore, un ou deux. Et c'est une petite guitare rythmique que t'entends sur le côté au casque, mais la guitare elle est dingo, quoi. C'est des accords de jazz, des trucs. Enfin, tu vois que le mec il sait jouer, c'est pas un train de savate, quoi. Mais en même temps, quand il s'agit de faire des guitares, même sur Boys and Girls, sa partie de guitare elle est ouf, c'est exactement ce qu'il faut. Elle est pas très compliquée, mais il fallait y penser, quoi. Là, de se dire sur tu fais ces petits barrés qui accrochent, et puis sur le fa, tu fais juste un coup de flanger énorme, et puis après tu ouais. Ou quoi, c'est Coffee and TV, le solo de guitare, il est fou, quoi. Il est dingue.
C'est sur ces quelques notes tourmentées de Graham Coxon et sur cette chanson de Blur, Coffee and TV, que cet épisode se termine. Un grand merci encore une fois aux personnes qui ont apporté de l'eau au moulin de ce vaste sujet. Nous avons beaucoup parlé de musique, le prochain épisode contiendra beaucoup moins de paroles et laissera place à la musique elle-même, hein, ce qui est quand même la moindre des choses. En attendant, c'est avec Flop qu'on se quitte. Illustre auteur-compositeur montreuillois et cette chanson qui reste au cœur de notre sujet, puisqu'elle s'intitule Les Beatles. À bientôt sur Trapanel.
À bientôt sur Trapanel.
Au revoir. À bientôt, Trapanel. C'est dur de passer après les Beatles. C'est dur de passer après les Beatles. C'est dur de passer après John Lennon et Paul McCartney. C'est dur de passer après les Beatles. Mais le pire c'est que si je passais avant eux, je ferais pas bien mieux, même probablement beaucoup moins bien. La barre est trop haute après les Beatles. La barre est trop haute après les Beatles. La barre est trop haute après Ringo Starr et George Harrison. La barre est trop haute après les Beatles. Mais le pire c'est que si je passais avant eux, je ferais pas bien mieux, même probablement. La barre est trop haute après les Beatles.